Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Underscore. On est là comme toutes les semaines pour vous proposer le talk show IT de Twitch finalement. Et j'ai l'honneur ce soir d'avoir des invités de marque. Merci à vous de m'avoir rejoint. Léo Duff, tu es youtubeur, j'ai vu que tu avais une chaîne Twitch aussi.
Ouais, on n'est pas obligé d'en parler parce qu'en ce moment je fais rien du tout, mais avant tout youtubeur.
T'as un youtubeur qui est compliqué à résumer je trouve.
Ah ouais.
Moi je dirais que tu parles de tech bien évidemment, mais tu t'intéresses pas mal aux expériences utilisateurs, aux écosystèmes, ouais. Notamment celui d'Apple.
Ouais.
Voilà, on va pas vanner, ça t'intéresse?
C'est assez simple à résumer, en fait je parle beaucoup d'Apple parce que j'estime que c'est quand même eux qui dirigent le marché, sans forcément être les plus innovants, en général c'est quand même eux qui ont les bonnes idées, eux que tout le monde écoute. Donc j'estime que parler d'Apple c'est parler à peu près de l'ensemble du marché, donc ouais, en général je me concentre là-dessus et aussi parce que c'est la marque que je connais le mieux.
Et c'est ce que je me disais aussi. Tu nous prépares quoi d'ailleurs sur ta petite chaîne?
Sur la chaîne?
Oui.
On va beaucoup parler de l'iPhone 13 là prochainement.
J'imagine.
Il y a une conférence qui a été annoncée hier.
Sur les Mac.
Sûrement sur les MacBook, donc ça va être aussi intéressant.
Que j'attends vraiment avec enthousiasme.
Ouais, moi aussi.
Parce que si je présume bien, en gros, ça va être la version un peu pro des puces M1, quoi.
J'ai acheté un MacBook il y a 6 mois, je vais déjà changer, tu vois.
Ah, dommage. Et on reçoit également Luc Julia, vous l'avez reconnu, bien entendu. Donc tu es ingénieur spécialisé en intelligence artificielle. Je dis pas de bêtises. Et tu es évidemment connu pour avoir travaillé sur les premières versions de ce qu'on connaît maintenant comme étant Siri. Je pense que c'est comme ça que la plupart des gens te connaissent. Tu es actuellement directeur scientifique chargé de la R&D de la division logicielle, donc chez Renault. Et tu es également passé quand même chez Samsung en tant que vice-président en charge de l'innovation. Palmarès, incroyable. Et ce qui est moins connu peut-être, c'est que tu as vendu une start-up qui s'appelle Orb à Qualcomm à une époque où ça n'existe pas en fait les start-up. Presque pas.
Dans la Silicon Valley, ça existait, mais...
C'était moins la folie peut-être qu'aujourd'hui. Et puis voilà, on vous a préparé un très beau programme. Restez avec nous toute la soirée. On va avoir une petite chronique que nous a préparé Léo, qui va être super cool. Et on va également avoir un vrai faux pour terminer, qui sera un peu l'occasion de discuter de sujets passionnants autour de la Silicon Valley, d'Apple, des GAFA, etc. Juste avant, je vous fais un petit retour sur notre week-end. Je ne sais pas si vous savez, mais on a un petit robot dans cette émission qui s'appelle Gabin et qui est en fait un assistant virtuel qui n'est pas de la trempe des assistants d'aujourd'hui, mais qui est un petit robot que vous allez bientôt voir affiché en bas à droite, à mon avis. Et on avait certains soucis dans certaines émissions parce qu'il est censé afficher des tweets en temps réel, mais alors ça marchait une fois sur deux. Il faut savoir que c'est un truc qu'on développe nous-mêmes.
C'est un vrai assistant finalement.
C'est un assistant qui bug, voilà, comme tous les autres. Et comme c'est un truc qu'on développe nous-mêmes à la main, voilà, il y a. Coucou. Et donc il y a souvent des problèmes. On vous a demandé votre aide pour nous aider à le débugger et c'est ce que vous avez fait ce week-end. Vous avez spammé de tweets dans tous les sens et grâce à vous, ça a été. Je vous fais un retour parce que ça a été fructueux. On a eu effectivement plusieurs problèmes qui venaient de Twitter. Un truc où ils ont dû faire une maintenance en plein milieu, alors ils déconnectent tout le monde d'un coup. Très étonnant. Et on s'est chopé un connection reset aussi. C'était ce week-end, voilà. Qui était très mystérieux. Mais grâce à vous, ça nous permet de choper les erreurs les plus incongrues, finalement.
C'est pas très grave, c'est tendance, les maintenances. Hein.
Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Tu me donnes une transition incroyable, cher Léo. Petit point actualité. Décidément, le leak de Twitch mercredi dernier et la journée d'aujourd'hui n'est. Ça n'a aucun sens, cette période. Tout le monde s'est décidé à nous livrer des actualités fraîches. Tous les mercredis soirs, visiblement, on va croire que c'est un complot. Mais on a eu un OVH down, comme Twitter l'a appelé. Tous les serveurs et équipements d'OVH n'ont plus été accessibles pendant une heure ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme Facebook la semaine dernière, c'était un problème réseau, une mise à jour aussi d'un routeur dans un data center à Vint Hill, sur la côte est des États-Unis. Décidément, ça fait planter tout le réseau, donc le backbone de OVH. Comment ils ont résolu le truc? Ils ont complètement clos finalement le data center et ça a réussi à repartir. Mais encore une histoire qui a dû faire transpirer pas mal d'ingénieurs chez OVH. On leur donne tout leur soutien, tout notre soutien. Et c'était pas tout. On a eu également un Snapchat down cet après-midi. Mais ouais. C'est une épidémie. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais voilà, tout le monde.
C'est bien, ça fait une petite détox imposée.
Ouais, exactement, petite détox pour vous rappeler que finalement, on doit pouvoir s'en passer. On va pouvoir commencer cette émission. N'oubliez pas de follow cette chaîne Twitch si elle vous plaît. Et on va commencer tout de suite avec l'interview de notre invité. C'est parti. Luc Julia, donc, tu es un expert français reconnu en intelligence artificielle. J'ai appris que tu étais même le 22e français le plus influent dans le classement de Vanity Fair. J'imagine que je te l'apprends pas.
C'est excitant.
C'est incroyable. Et donc, c'était en 2018.
Je suis combien, moi ?
Toi ?
Ouais. 23.
Bon.
Continue ta chronique.
Donc on le disait en intro, tu as travaillé notamment sur Siri. J'espère que tu m'en voudras pas, mais je pouvais pas m'empêcher en première question de te demander pourquoi est-ce que Siri est si stupide.
Parce que contrairement à ce que les gens croient, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la stupidité artificielle. Donc c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on pensait que ça pourrait être. C'est-à-dire un assistant intelligent, et ce que c'est vraiment. Et donc, comme on savait que ça ne marchait pas bien, on a rajouté dans Siri pas mal de stupidité, juste pour s'amuser. Et c'est ça qui a plu aux gens, et c'est ça qui a fait qu'au bout d'un an, il y avait 300 millions d'utilisateurs.
C'était un peu des sparadraps pour masquer finalement la structure qui était déjà bancale, en fait.
Oui, enfin, déjà bancal. Il faut reconnaître que la reconnaissance de la parole,
c'est un gros morceau,
années 90, hein, parce que Siri date des années 90, même si c'est sorti qu'en 2011. Dans les années 90, ça ne marchait pas très bien, la reconnaissance de la parole. Hein. Il faut comprendre qu'on est dans des taux de reconnaissance de 80-85% quand on parle de open vocabulary, c'est-à-dire que quand on peut dire tout et n'importe quoi. Donc 80-85%, ça veut dire qu'il manque quand même, dans une page de bouquin, par exemple, il manquerait à peu près 45 mots.
45 ça n'aide pas à la lecture, quoi.
Ça, c'est compliqué pour comprendre. Alors, on a assez de mots des fois, mais des fois pas assez. Et du coup, comme le système ne marchait pas très 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 bien, au lieu de dire comme tous les autres scientifiques de l'époque qu'on était les meilleurs, on a dit on n'est pas très bon. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pallier à cette complication scientifique par en rajoutant quelque chose d'un peu rigolo qui va humaniser la chose. Et c'est un peu un problème justement qu'on ait fait ça. Parce que ça a amené plus tard le film Her, par exemple, et qui a fait croire aux gens qu'éventuellement un assistant peut vraiment être intelligent. Il y a des gens qui sont tombés amoureux de leurs assistants, ce qui est un peu... ça sert à rien, je vous le dis.
Surtout quand toi, tu as l'envers du décor, ça peut te paraître encore plus drôle, peut-être.
Oui, c'est triste.
Ouais. Ouais.
Donc voilà, alors, on avait rajouté ça, c'était marrant. On a embauché des scénaristes de Hollywood pour pouvoir nous aider à scénariser, donc justement, quand il y a des petites erreurs. Et donc... Siri réagissait de manière un peu rigolote. Et c'est ça qui a plu aux gens. Mais c'est ça qui a lancé, parce que la vérité, c'est que les Alexa et autres Google assistants d'aujourd'hui sont des héritiers de Siri. Hein. Donc ça a lancé un domaine.
Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens déjà à l'époque, au moment où c'est arrivé, c'était l'iPhone 4S.
4S, ouais.
Et je me souviens, dès le début, ce qui a fait fureur, enfin moi en tout cas avec mes potes, etc., c'était on avait genre 5-6 phrases qu'on se partageait en fait. Et qui donnait des réponses rigolotes.
Exactement. C'était ça qui était scénarisé. Hein. C'était le but du jeu, c'était que ça fasse un peu marrer les gens. Parce que, bon, aussi, ça servait à quelque chose. Hein. Il y avait 5 domaines, hein, donc on pouvait appeler des téléphones, on pouvait rajouter des meetings, on pouvait trouver déjà des restaurants, et des choses comme ça. Mais bon, il y avait cinq domaines, c'était quand même pas beaucoup. Mais du coup, on avait rajouté ce petit truc qui était un petit plus. Et c'est ça vraiment qui a fait marrer les gens. Mais ceux qui nous ont copié après, bien tout honneur, hein, ils ont copié parce que c'était
une bonne idée.
Mais eux, ils ont fait moins rigolo. Donc c'était Alexa aujourd'hui, pas très drôle. Elle marche mieux, hein, elle marche beaucoup, beaucoup mieux que Siri aujourd'hui, toujours.
Ouais.
Et Google Assistant est pas très rigolo non plus, mais il marche aussi beaucoup mieux.
Est-ce que ça allait pas aussi un peu avec l'aspect un peu impertinent que pouvait avoir Apple au début?
Je pense pas que c'était vraiment une... Je pense pas que c'était une volonté d'Apple vraiment d'avoir ça. C'était peut-être. Là. En fait, je sais pas, mais bon, il faut être clair que Siri est arrivé chez Apple seulement à cause d'une personne, Steve Jobs. Donc, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu Siri sur Apple. C'est lui qui, contre vents et marées, a poussé pour acheter Siri, parce que Siri était une compagnie à l'époque qui a été créée en 2007. Et donc, quand Steve Jobs l'a acheté en 2010, c'était le seul à avoir vu quelque chose. Et ce qu'il avait vu, c'était pas idiot, c'était de dire bah, tiens, j'ai un iPhone, j'ai un truc, un device qui a un micro. Donc je peux lui parler. Alors, je peux lui parler pour appeler des gens, mais je peux peut-être lui parler au device lui-même. Mais parler au device lui-même, c'est pas rigolo. Peut-être qu'il faut un assistant. Et donc, je pense que c'est ça qu'il a vu.
Une époque où c'est une idée qui n'est pas du tout mainstream.
Qui n'est pas du tout
mainstream, c'est-à-dire
que les gens ne connaissent même pas, ouais. En fait. Mais au-delà de l'argument technologique, c'était une superbe idée marketing. Quand on revoit les publicités de l'iPhone 4S à l'époque, ils jouent principalement...
Bah voilà, ça faisait rêver tous les gamins.
Tu regardais, tu avais plein d'articles qui sortaient de les phrases qu'on peut dire à Siri. Il y avait des questions du genre où est-ce que je peux enterrer un corps et vous donner,
Oui, il y avait le top 10 des trucs à demander à Siri. Ça, c'est quand même symptomatique que c'était une bonne idée, en tout cas d'un point de vue marketing.
Ouais.
Comment toi, tu t'es retrouvé... Comment on se retrouve à bosser sur Siri, en fait?
Je l'ai inventé, donc c'est un peu normal. En 97, avec...
Quel est ton processus, toi, qui te fait dire que ça va être une bonne idée?
Ben en fait, bon, il faut reprendre un peu l'histoire, donc il faut rewind 14 ans, d'accord, 1997, avec Adam Chayer. On est tous les deux, on est des chercheurs en informatique. On est spécialisés, moi je suis spécialisé dans les interfaces homme-machine, lui il est spécialisé dans les agents. Donc on travaille ensemble et on décide que ça serait une bonne idée d'avoir quelque chose qui va nous aider à naviguer Internet. Internet est nouveau, hein, ça arrive depuis 1994, donc on ne sait pas trop exactement comment prendre ce machin. Et donc on se dit, bah, naviguer Internet c'est compliqué, il n'y a pas Google, hein, Google n'existe pas. Hein. Et donc on dit, bah, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous aide. Donc on va créer un assistant qui va nous aider à naviguer Internet. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, alors, c'était sur un desktop, hein, donc c'était sur une machine normale, dans un browser en fait, donc là il y avait les browsers déjà, mais à côté du browser il y avait un petit assistant, c'était un vieux PP en fait à l'époque, le tout premier c'était un vieux PP un peu sourd, parce que justement il ne comprenait pas bien, c'était déjà fait un peu exprès, il y avait tout ça c'était un peu réfléchi quand même. Hein. Et donc ce vieux PP, on pouvait lui poser des questions comme « trouve-moi les restaurants à San Francisco », et puis enfin des choses comme ça. Quoi. Donc ça a commencé comme ça, mais on parlait à un ordinateur. Hein. Donc on avait pensé ça comme un ordinateur, et un peu plus tard comme un kiosque. Mais on n'avait pas pensé en fait au téléphone, franchement. C'était pas un truc... Enfin, le téléphone portable n'était pas non plus exactement là. Donc du coup, on n'avait pas du tout pensé à ça. Et donc le crédit de... Du téléphone va vraiment à Jobs, encore une fois. Mais donc, pourquoi on y travaillait? Bah, on a fait ça. Ça a mis du temps. Hein, 14 ans, c'est long. Mais après, quand... moi, j'ai fait d'autres trucs entre-temps. J'ai fait d'autres compagnies, j'ai fait d'autres startups. Mais quand Jobs a racheté Siri, Adam Chayer, donc lui, travaillait dans la compagnie Siri à ce moment-là. Il y avait 180 000 utilisateurs, à peu près. Hein, donc, c'était bon, un petit truc qui était rigolo sur Android. Et donc, Adam m'a appelé un jour en me disant bah, « Tiens, là, ça commence à être chaud, et est-ce que tu veux venir run the show ?» Donc, j'ai dit bah, « Nous, on a travaillé pendant des années ensemble, donc j'ai dit « Bah oui, je vais venir à Apple, même si j'aime pas Apple. »
Ah ben oui, alors ça c'est justement un truc qu'on avait noté, c'est qu'on s'est un peu fait toute la page Wikipédia, on a noté les réactions que tu pouvais avoir vis-à-vis de certaines entreprises, etc. Et c'est vrai que c'est assez étonnant ça, que même en fait, dès le début, c'est pas ton passage chez Apple qui t'a fait avoir cet avis, c'est que dès le début, tu étais déjà assez réticent
d'Apple. Oui, j'aime pas la fermeture. Hein. Et Apple est une compagnie fermée. Hein. Donc dans la Silicon Valley, c'est une anomalie, Apple. Parce que toutes les compagnies, enfin beaucoup de compagnies sont très ouvertes, il y a beaucoup de collaboration entre... Enfin, je parle d'Apple d'il y a 20 ans. Hein. L'Apple de Tim Cook a un peu changé. Mais l'Apple de l'époque était très fermé, ils n'allaient pas dans les conférences, enfin bon, c'est l'Apple secret, hein, c'est la culture du secret. Et donc, on ne partage rien, on fait nos petits trucs dans nos coins et tout ça, donc bon, voilà. Donc ça, moi, ça ne me pesait pas, je suis plutôt Linux que, euh, que Apple ou que macOS même Windows. Et donc du coup, bon, ça ne m'attirait pas plus que ça. En plus, ma première expérience avec Steve Jobs était, on va dire, moyenne, puisque je l'ai rencontré la première fois en 2003. Et on lui montrait, on lui faisait une petite démonstration d'une de mes compagnies de l'époque. Et on avait une heure avec lui, on était tout fiers de faire la démo et tout ça, bon, tout allait bien. Enfin, pour nous, tout allait bien. Et lui, au bout d'un quart d'heure, il a décidé que ça allait pas bien du tout. Il s'est levé, il a dit c'est de la merde, et il s'est cassé. Donc la toute première expérience avec lui était moyenne. Mais bon, après, ça s'est arrangé, on va dire.
Incroyable. Alors comment est-ce que c'est quand on est français et qu'on vit à la Silicon Valley ? Est-ce que déjà à cette époque-là, c'est un endroit qui est très cosmopolite, ou alors est-ce que...
Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de startups, que c'est le début des startups. En fait, les startups, ça fait très 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 longtemps qu'il y en a dans la Silicon Valley. Hein. Dans les années 90, il y en avait énormément. Vous avez tous entendu parler de la bulle d'Internet en 2000. S'il y a une bulle, c'est parce qu'il fallait qu'elle pète, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups. Donc, depuis longtemps, la Silicon Valley est un endroit qui attire... les étrangers, depuis très longtemps, cette région-là attire les étrangers de toute façon, parce que pour moi, je fais remonter ça à la ruée vers l'or, hein, en 1848, donc ça fait quand même un peu longtemps. Mais donc, bref, la Silicon Valley, c'est quand même un melting pot. D'accord, donc c'est multiculturalisme.
Vous n'êtes pas dépaysé.
Pardon ?
Donc tu n'es pas dépaysé, tu es déjà avec une communauté française.
Ouais. Hein. 55 000 Français, c'est beaucoup. Hein. Je dis toujours qu'il y a la moitié d'ingénieurs informatiques, l'autre moitié de boulangers. En gros, il faut nourrir tous ces gens-là, et surtout avec du bon pain. On est beaucoup. Les accents sont terribles, et on est habitué, et c'est OK, quoi. Alors, évidemment, si on bougeait tous au Texas, ça serait plus
compliqué. Je pense qu'en tant que passionné de technologie, on a peut-être tendance à idéaliser un petit peu ces moments-là et la région en elle-même de la Silicon Valley. Il doit forcément y avoir des mauvais côtés qu'on ne connaît pas.
Alors moi, je pense qu'il faut l'idéaliser parce que c'est un endroit absolument incroyable. C'est un endroit absolument fantastique pour la création de la technologie à cause de ce melting pot, justement, à cause du fait que les gens viennent là, que cette ruée vers l'or, qui est aujourd'hui la ruée vers l'informatique ou la ruée vers les services ou la ruée vers je ne sais pas quoi, vers Internet. Mais je pense qu'il faut continuer à l'idéaliser parce qu'il y a toujours un esprit absolument extraordinaire de partage en dehors d'Apple. Toutes les autres compagnies ont cet esprit de partage. Alors c'est pas, on va pas partager des secrets industriels, c'est pas ce que je veux dire. Mais on est là pour faire avancer le schmilblick. D'accord. Quel que soit le machin, il y a des discussions tout le temps sans fin. Enfin c'est pour ça, c'est assez extraordinaire. Et donc bon, pour moi c'est toujours un endroit qui est comme ça. On peut pas décréter une Silicon Valley. C'est pas quelque chose. Là, on me fait marrer en France.
Quand on reproduire.
Ouais, quand on me dit qu'on va créer la Silicon Valley à Orsay ou à Saclay ou je sais pas où, bonne chance les gars, il n'y a aucune chance. Mais voilà, donc ça se crée pas. C'est un esprit, c'est un fluide, c'est quelque chose. Je peux pas l'expliquer, mais c'est extraordinaire. Et en plus, il fait beau.
Est-ce que malgré ce portrait idyllique, il y a peut-être des trucs qui t'ont surpris quand t'es arrivé, ou qui t'ont déçu, ou maintenant tu as passé un moment, tu peux nous dire, qui sont moins bien, ou alors tout est un paradis sur Terre.
C'est quand même un truc bizarre, mais ça fait presque 30 ans que je suis là-bas, et j'ai pas du tout envie de partir. Donc je vois pas de raison pas y être. Donc peux pas dire.
Tu nous confirmes dans notre fanatisme. C'est ça, exactement.
Je t'entendais parler du contraste justement que tu as ressenti tout de suite entre la Silicon Valley et notamment la France. Tu travaillais au CNRS.
J'étais dans un labo du CNRS, je faisais ma thèse à l'époque. Et donc j'étais dans un labo du CNRS. Alors, c'était mon rêve, hein, de gamin, hein, donc j'étais très content d'être arrivé au CNRS. Mais malheureusement, mon rêve s'est effondré en quelques mois parce qu'on m'a rapidement expliqué qu'il fallait que j'arrête de collaborer avec d'autres labos du CNRS, ce qui est pour moi une aberration totale, parce que la recherche, puisque je faisais de la recherche c'est de la collaboration, on n'envoie pas des trucs tout seul, on n'est pas des génies, quoi, hein. Donc, enfin, c'est pas moi en tout cas, et donc du coup, je voulais collaborer, je voulais partager, et ça c'était ce qu'on m'a empêché de faire, de faire, hein, en me disant, tu travailles plus avec machin à Grenoble, parce que sinon ils vont avoir plus de sous que nous. Bon, alors je dis pas que c'est comme ça aujourd'hui, j'en sais rien, d'accord, ouais. C'était il y a 30 ans ça, donc je sais pas, mais il y a 30 ans ça m'a complètement choqué, donc je suis parti, j'ai eu la chance de pouvoir parce que bon, j'avais fait d'autres choses qui ont fait que des gens me reconnaissaient quelque part. Donc, je suis parti au MIT d'abord. Donc, au MIT, ce qui est un endroit mythique hein, pour les gens qui font de l'informatique, ils sont quand même attirés par le MIT. Donc, moi, j'étais assez content d'être parti au MIT. C'était au mois de juin, c'était sympa. Le problème, c'est qu'au mois d'octobre, c'est Boston, le MIT, et Boston, au mois d'octobre, il fait frais. Il fait très très frais et avoir la pelle et la neige, ça m'intéresse, c'est moyen. Donc du coup, c'est pour ça que quand on m'a appelé à ce moment-là, on m'a dit bah, « tu peux aussi venir à Stanford en Californie ». Je lui ai dit bah, « je vais peut-être aller là ». Je ne connaissais rien, enfin, je savais que les noms étaient pas mal, MIT, Stanford, mais sinon je ne savais pas plus que ça. Mais quand j'ai débarqué dans la Silicon Valley et quand la deuxième semaine, j'ai été dans ce club, hein, une sorte de petit club qui était fait à Xerox Park, tous les mois, il y avait un truc qui s'appelait BKI, qui est Bay Area, et KI, c'est Computer Human Interaction, c'est ce que je faisais. Et il y avait ce club donc, qui se réunissait une fois par mois à Xerox Park. Alors, déjà, Xerox Park, pour un informaticien, c'est la Mecque. Hein. C'est un endroit où vous y allez. Alors, c'est très moche, hein. C'est très très moche. C'est construit dans les années 70, les buildings sont affreux et tout ça, mais c'est la Mecque. Donc, vous arrivez, vous avez la chair de poule, enfin c'est pas possible de faire autrement. Et donc, bon, là, c'était déjà pas mal, mais en plus de ça, quand vous rentrez dans le meeting là, qui est là et que vous voyez tous ces gars, il y a 100, 200 mecs dans la pièce, et tous les gars qui sont là, vous les avez plus ou moins cités dans vos papiers, dans les machins, c'est des références, ils sont tout ça, et puis ils parlent entre eux.
Disneyland.
C'est plus que Disneyland. C'est Mickey, Dingo et tout ça, mais qui parlent entre eux, qui font des trucs. Et qui sont excités comme des gamins. C'est des mecs, c'est des vieux de 50, 60 ans. Et ils sont là, ils sont des boîtes différentes. Ils sont de Microsoft, de Xerox, de HP, de machin. Et ils se parlent. Et moi, je dis, mais j'étais au CNRS. On ne voulait pas que je parle avec un autre mec du CNRS. Et là, des mecs de boîtes différentes qui font des milliards, qui se battent à coups de milliards, ils ont le droit de se parler. Bon, bah, je suis resté.
Et rétrospectivement, tu dirais que c'est quoi? Tu as vécu plein d'expériences du coup différentes. C'est quoi ton meilleur employeur?
C'est moi. C'est-à-dire que c'est les boîtes que j'ai faites, évidemment. Hein, c'est celle des années 2000. Parce que je m'amuse à... Non, parce que je peux aussi, je m'amuse à couper ma vie en période de 10 ans. Donc j'ai fait 10 ans de recherche. Après ça, j'ai fait 10 ans de start-up. Et puis après ça, 10 ans de grosses compagnies. Et donc, mes start-up, c'était le truc le plus rigolo. Alors, en même temps, c'était... Mais employeur, parce que c'était nous, donc c'était, ouais. On faisait ce qu'on voulait, donc ça c'était sympa. Mais c'est peut-être pas la meilleure expérience. On a fait des trucs rigolos. La compagnie qui s'appelle Orb, qui était une des boîtes que j'ai préféré faire, techniquement un challenge extraordinaire, un truc très très compliqué, trop compliqué certainement pour les gens, mais pour les geeks, ils étaient contents. mais c'était vraiment super, c'était vraiment une super expérience, mais compliqué pour avoir des sous, pour machin. Enfin, on avait quand même 13 millions d'utilisateurs, hein, donc c'était pas trop trop mal. Mais après, quand on passe dans les grosses compagnies, et que bah, HP, la première, HP c'est une compagnie fantastique, c'est un des berceaux de la Silicon Valley. Là, on fait un machin avec la puissance marketing du truc. On se retrouve à vendre la première année 80 millions d'unités d'un truc qu'on a fait. Je veux dire, c'est pas les mêmes échelles. Et puis après, bon, Apple, 300 millions. Et puis après, Samsung, 1 milliard. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Donc, mais du coup, j'ai toutes les grosses boîtes que j'ai fait après, donc HP, Apple et Samsung, les trois, je me suis bien, bien amusé.
Avec leurs avantages, du coup. Et donc, maintenant que ça fait quand même un certain temps que tu y es, tu dois, je pense, un peu sentir des choses que nous, on voit pas ici. Et tu dirais que c'est quoi parmi les GAFAM et autres, hein, et je crois qu'ils disent FANG en anglais pour les boîtes hype, c'est quoi la boîte qui, tu dirais, a le plus la cote chez les développeurs, chez qui tout le monde veut aller?
Pas les GAFAM. Eux, ils n'ont plus la cote du tout. Hein. Google, depuis un petit peu de temps déjà, ils ont un peu baissé de régime. Et, bon, ils ont des petites casseroles, des machins. Bon, Facebook, j'en parle même pas. Amazon, compliqué aussi. Amazon dans la vallée est assez rigolote. En fait, bon, il y a un scoop que je vais vous donner ici parce que je pense que je n'ai pas dit encore beaucoup. J'ai travaillé à Amazon pendant 4 semaines.
C'est express.
Donc, ouais, c'était très express.
Plus que Boston.
C'était pour m'amuser. Un petit peu plus. alors c'est un truc qui est rigolo, en fait, Amazon, parce que c'est une boîte qui fait tout pour ses clients. Donc elle est absolument extraordinaire pour ses clients, mais elle ne fait pas tout pour ses employés. Et ça, c'était pour moi un choc, parce que dans la Silicon Valley, c'est quand même l'endroit pour les ingénieurs, pour les développeurs, c'est l'endroit des perks. Ce qu'on appelle les perks, c'est on a tout,
avantages,
tout le temps les avantages, des trucs, enfin, des trucs incroyables, des trucs débiles, hein, des trucs, je sais pas, vous amenez votre sac de linge le matin, vous repartez le soir avec des trucs repassés, pliés, machin, enfin bon, lavés, pliés, quoi.
C'est pratique quand même.
C'est super pratique, mais bon.
C'est pas encore proposé à la capsule pour l'instant, mais on va y réfléchir.
Mais voilà, donc il y a plein de perks comme ça tout le temps, et je crois que Amazon, c'est la compagnie qui a le moins de perks du monde. Donc, un truc, par exemple, que moi, depuis 30 ans, j'ai dans toutes les compagnies dans lesquelles j'ai été, c'est free lunch. D'accord ? C'est le truc le minimum, quoi. On nous donne à bouffer parce qu'on est là pendant quand même 12 heures par jour. Donc, on nous donne à bouffer à midi. Amazon, non. Dans Amazon, vous payez à bouffer et en plus, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est pas mal.
C'est les radins de la région.
C'est des radins extraordinaires. C'est absolument fabuleux. Et un autre truc aussi, alors tout le monde a des Tesla, évidemment. Dans la Silicon Valley, on a tous des Tesla. Donc à Palo Alto, je pense que c'est l'endroit où ils ont vendu toutes les Tesla qu'ils avaient. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous, quand on va au travail, on y va pour brancher sa voiture. Parce que bon, donc y a, tout le monde branche sa voiture gratuitement. Sauf Amazon, ils font payer pour faire charger ta voiture.
Et du coup, au bout d'un mois, t'en as eu marre, t'as dit,
bah, c'est
je
pas
me
pour
casse.
Ça que j'en ai eu marre, mais ouais. Ça m'a fait quand même marrer. Il y avait d'autres problèmes qui étaient que c'était le management, pour moi, était absolument incroyable. Mais voilà, donc ça m'a bien amusé de pouvoir comparer. Et c'était dans ma quête de faire tous les GAFAM, en fait, hein, parce que je me suis
un peu challenge.
Donc j'ai travaillé un peu pour Google aussi, contrat, comme ça, quand j'ai quitté Samsung. Et puis le seul que j'ai pas fait, que je ferai jamais, sauf le 1er avril dernier, j'avais annoncé que j'arrivais chez Facebook. J'ai envoyé ça.
Il y a une levée de bouclier.
Il y a 250 personnes à qui j'ai envoyé. Il y en a 92% qui m'ont cru. Et ça m'a beaucoup embêté parce que vu comment je parle de Facebook depuis tout le temps, ça m'a quand même étonné qu'il y ait 92% des gens à qui j'ai envoyé ça qui aient cru que j'allais travailler chez Facebook.
Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit courage?
Ah bah ils m'ont dit félicitations, surtout
c'est encore pire.
Donc c'est voilà.
T'as réussi à écrire un bouquin qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Je dirais que c'est presque aussi putaclic que mes titres de vidéos YouTube et c'est pas peu lire. Est-ce que c'est osé pour un chercheur en IA quand même?
Bah ouais, parce que j'en ai marre qu'on raconte n'importe quoi sur l'IA. C'est ça le problème. Le problème c'est que l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous parle. En général, dans les médias, celle qui faisait les titres, je dois dire, et j'espère que c'est grâce à mon bouquin, que ça va un peu mieux. D'accord, je dois dire que ça, on a plus ces gros titres qui disent l'IA va nous tuer, l'IA va nous remplacer, ou l'IA tomber amoureux de vos IA, machin. Donc, il y a plus ça. Donc, ça a commencé à se calmer un peu, mais c'était ce que j'appelais l'intelligence artificielle de Hollywood. D'accord, celle des films. D'accord, celle de la science-fiction. Donc, celle-là, effectivement, elle n'existe pas. Et elle n'existera jamais. C'est l'IA, ce qu'on appelle en anglais le AGI, l'Artificial General Intelligence. Donc celle-là, elle n'existera jamais. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir d'intelligence qui soit l'intelligence artificielle qui soit aussi intelligente que nous.
Pas possible. Ce sera que des IA spécialisées du coup.
Voilà. Du coup, j'aime bien décrire l'IA comme. Alors si je parle d'une IA, je vais parler d'une IA comme une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. Et donc les outils, par définition, bah, ils servent à quelque chose. Et les outils sont, par définition, très spécialisés. Marteau, tournevis, pince. Voilà. Et donc, bah, c'est ça, les IA. Donc, elles sont très, très spécialisées. Elles font des trucs mieux que nous, par définition, parce que c'est un outil. Mais elles les font d'une manière très, très spéciale et spécialisée.
On s'est aussi amusé à lire, donc, je te disais, ta fiche Wikipédia. Donc, on est tombé sur le truc d'Apple dont on a parlé tout à l'heure. On est aussi tombé sur le pourquoi quand tu étais chez Samsung, tu as dit, devant le refus du groupe, il démissionne, mais est rapidement réembauché. On a l'impression que tu n'hésites pas à monter la voie.
C'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux depuis très très longtemps. Donc quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne le fais pas. Donc là, en l'occurrence, il y avait un projet auquel je croyais vraiment. On avait travaillé pendant 3-4 ans avec une soixantaine d'ingénieurs, donc c'était quand même un gros projet. Et on pensait que c'était un truc génial, évidemment. Moi, je présentais ça à Samsung tout le temps. Et puis, j'attendais que ça aille en production. Et un jour, on m'a expliqué que ça n'irait pas en production. Donc, j'ai dit, c'est dommage. Donc, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déménagé. J'ai été vivre à Séoul. J'ai pris un appartement à Séoul. Et j'ai été vivre à Séoul. Et tous les jours, j'allais à la porte des chefs de Samsung. Et donc j'ai vécu en Corée en hiver pendant 6 mois.
À toquer à la porte.
Ah non, non, mais tous les matins, j'allais les faire chier pour dire, les gars, il faut prendre le truc, il n'y a pas de raison. Ils l'ont pris, au bout de 6 mois. Mais je veux dire que ça m'a fatigué d'être pendant 6 mois à Séoul, donc juste après, j'ai démissionné. Voilà, donc j'ai dit, c'est bien, vous l'avez pris, je suis content, mais moi, je n'ai pas trop aimé le fait d'aller
mais passer 6 mois. Mais alors, vous avez été réembauché après.
Alors, il y avait mon président, le président de Samsung, qui m'appelait régulièrement après que j'ai démissionné. Mais c'est là où j'ai fait ma petite incartade, donc chez Amazon.
Amazon.
Et c'est là aussi où j'ai écrit mon bouquin. Donc j'en profitais, j'ai pris quelques mois pour écrire ce bouquin, parce que je ne suis pas un écrivain. Hein. Donc j'ai pris quelques mois, et du coup, j'ai pris quelques mois de
tranquillité, hein, on va dire.
Et puis il m'appelait, et au bout d'un moment, j'ai dit... Ok, j'ai vu comment c'était à Amazon. Donc,
tout compte fait.
Je pense que finalement, c'est pas mal Samsung.
Puis t'avais plus de linge propre en fait au bout de.
Et voilà.
Amazon, ça,
donc,
le problème.
Ouais, il fallait y retourner. Donc je suis retourné avec de nouvelles conditions, on va dire. Et une des conditions, c'était d'ouvrir un labo ici à Paris. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a ouvert un gros labo à Paris qui a pas mal marché, qui était sympa.
Incroyable. Et alors aujourd'hui, tu travailles chez Renault. Qu'est-ce qui t'a convaincu de revenir à la mère patrie ?
Alors d'abord, je ne suis pas revenu, hein, parce que je suis là de temps en temps.
Oui.
Mais bon, je suis là. De toute façon, aujourd'hui, dans le monde, ça n'a pas d'importance, hein, oui. De savoir où on est. Mais qu'est-ce qui m'a convaincu ? En fait, je suis français, franchouillard de base, hein, quand même. Ça fait depuis donc, 30 ans que je suis là-bas, mais tous les mois, je reviens de toute façon. Et je suis toujours revenu depuis 30 ans, au moins une semaine par mois, juste pour bouffer du saucisson.
Et un argument tout à fait recevable.
Ouais,
ça fait beaucoup d'avions quand même.
Oui, fait...
Ouais, c'est pas bon pour mon bilan carbone, mais bon.
Combien de saucissons au kilomètre ?
Non, mais l'argument est bon. Moi,
bon, c'est le saucisson, c'est important. Et donc, du coup, bon, ça, c'était. Ça veut dire juste que je suis bien français. Et surtout, la vérité, c'est que, comme j'ai dit, j'ai mes périodes de 10 ans. J'avais fini ma période de 10 ans dans les grosses boîtes américaines, dans ma tête en tout cas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après ? Alors, je sais que je peux prendre ma retraite, ça je le sais. Donc du coup, je vais rendre quelque chose à la France. Ça fait grandiose comme ça. Mais c'est vraiment ce que je pense en fait. Et je pense que l'expérience que j'ai acquise pendant ces 30 ans, elle peut servir à quelqu'un. Et en l'occurrence, l'industrie automobile m'attire depuis tout le temps. Un de mes premiers brevets en 1996, c'était la voiture intelligente. Et donc, je pense qu'on peut faire des trucs sympas. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, on a des modèles là-bas dans la Silicon Valley qui sont intéressants, hein, avec Tesla, Lucid, des choses comme ça. Et donc, les vieilles compagnies automobiles, celles qui ont plus de 100 ans, comme les Renault et autres, peuvent avoir besoin de cette vision un peu disruptive de ce qui se passe dans la vallée. Donc, j'ai proposé ça, ça a été accepté. Et puis, j'aime bien l'idée, effectivement, de revenir amener cette expérience et de remercier surtout la patrie, quelque part, de m'avoir éduqué, parce qu'à la fin, l'éducation que j'ai reçue, ce n'est pas aux États-Unis que je l'ai eue, c'est ici.
Justement, à propos d'éducation, on a beaucoup de gens qui nous suivent ici, qui sont potentiellement des étudiants qui vont étudier l'informatique ou des personnes qui s'interrogent sur ce qu'ils vont faire plus tard. Toi qui donc es ingénieur en intelligence artificielle, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui la meilleure façon de faire les métiers que tu as fait ?
Faire des maths. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est faire des maths. Ouais, non, c'est...
Plus personne dans le chat.
Y a pas de... Bon, déjà, il faut être passionné. Je sais pas si on a dit tout à l'heure, mais j'ai commencé très 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 tôt à faire de l'informatique, de l'électronique et tout ça. Donc c'est une passion, ça c'est clair. J'ai tripoté, j'ai bidouillé, j'ai piraté, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et après, j'ai fait des études. C'est ces études-là que je trouve intéressantes parce que on est les meilleurs en maths en France, dans le monde. Il faut juste le réaliser. On ne se rend pas compte parce qu'on aime bien se flageller en permanence et se dire qu'on est nul. D'accord ? On est les meilleurs. On a des problèmes certainement dans le système éducatif. On laisse sur le côté beaucoup de gens et beaucoup trop de gens. Bon, ça, je pense que c'est vrai. Mais ceux qui passent, d'accord, ceux qui passent, qui sont les élites, hein, on va dire ça comme ça, on est les meilleurs en maths du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est les meilleurs en IA du monde. Parce que l'IA, c'est des maths. D'accord, que ce soit la logique ou les statistiques, c'est que des maths. Et du coup, on est les meilleurs du monde, point. Alors déjà, il faut...
C'est motivant.
Ça.
C'est motivant quand on est français, du coup.
C'est motivant, mais c'est surtout vrai. Et donc, arrêtons de nous flageller, arrêtons de dire qu'on est nul. On est les meilleurs, d'accord ? Maintenant, on n'est pas les meilleurs en tout, d'accord ? Mais en IA, on est les meilleurs. Et en maths, on est les meilleurs. Donc, aujourd'hui, pour faire de l'informatique telle qu'elle est, parce que l'informatique, aujourd'hui, c'est de l'IA, hein, il faut pas se cacher les choses, il faut quand même être pas trop mauvais en maths, au moins comprendre les concepts. Par contre, ce que je vais recommander, qui est peut-être contre-intuitif, c'est de ne pas apprendre un langage informatique. Parce que ça ne sert à rien. Parce que les langages informatiques, ils changent tous les 2, 3, 5 ans. D'accord ? Par contre, apprendre la structure de langage, comprendre comment ça marche, apprendre un peu le dessous, les architectures, ça c'est intéressant. Apprendre un langage, ça ne sert à rien, parce qu'un langage, il va y avoir 100 mots dedans, ou peut-être 200 un jour. Et c'est tout. Et ça, c'est super facile à apprendre.
En fait, c'est pas un objectif d'apprendre le langage, mais ça va être une des étapes, finalement, sur le chemin.
On fera le jour où on aura à faire quelque chose, d'accord ? Donc, ça sert à rien d'apprendre un langage à l'école. Moi, j'ai appris le Pascal à l'école. Je pense que je n'ai jamais programmé en Pascal. J'ai appris le Fortran à l'école. Je n'ai jamais programmé en Fortran. C'est ma vie.
Mais alors, est-ce que peut-être, moi, je me remets dans mes années d'études, je suis... entièrement d'accord que les langages qu'on étudie, même à l'université, sont pas forcément ceux qu'on va utiliser dans la vie. Mais il y a quand même ce côté de manipuler les choses et donc d'avoir des, entre guillemets, de travailler sur un vrai langage, de voir le résultat et d'avoir cette gamification qui se crée.
Mais ça, je suis complètement d'accord. Je dis pas qu'il faut pas travailler. C'est-à-dire qu'au moment où il faut faire des projets, évidemment, le projet, je vais faire en quelque chose. Mais le quelque chose n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, évidemment, quand on va me dire, bah, si je fais un projet et j'ai que appris le Lisp, bah, je vais le faire en Lisp, d'accord, pourquoi pas. Mais bon, je conseille plutôt d'essayer, quand on va me dire, fais un projet, bah, va plutôt faire ton projet dans le langage dernier qui est à la mode en ce moment. D'accord, donc aujourd'hui, ce serait, je sais même plus.
JavaScript peut-être. Probablement.
Non, je pense pas.
Aïe.
Bon, peut-être.
Merci en tout cas d'être venu jusqu'à notre plateau. On va encore découvrir encore plus sur toi dans la suite de cette émission. Mais d'abord, on le sait tous les ans, en septembre, c'est la même rengaine. Apple sort un nouvel iPhone. Et Léo, tu vas nous en parler. C'est la chronique de Léo. C'est parti. Léo, tu as posé cette question. Pourquoi Apple sort à chaque fois de nouveaux iPhones tous les ans ? Est-ce que ça va s'arrêter ?
C'est pas tellement moi qui pose la question, mais chaque année à cette période, je me fais flageoler parce que je vais acheter le nouvel iPhone. J'avais envie de vous partager cette réflexion qui sera en partie le sujet de ma prochaine vidéo, sauf que là, j'ai pas de prompteur. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer.
Ne t'inquiète pas, aucune pression. On est tous
bien. Chaque année, Apple sort un nouvel iPhone avec ses nouveautés et aussi qui font quasiment moins parler que ce en quoi il n'innove pas. Il y a toujours des vannes, on les connaît. Je pense que ces dernières semaines, on a tous vu les vannes sur le capteur de l'iPhone 12 qui est un peu déplacé sur la droite et paf, ça fait l'iPhone 13. Voilà, on y a le droit.
J'ai vu des tutos YouTube comment faire l'iPhone 13 où t'as un gars sur Photoshop qui fait...
Qui déplace le capteur et voilà, ça donne l'iPhone 13. Bon, évidemment, l'iPhone 13 que j'ai ici dans sa version pro, ce n'est pas que ça. Je pourrais vous parler du nouveau mode macro-photographie qui permet de prendre en photo des objets de très près, qui est assez impressionnant quand il y a la bonne lumière, quand il est dans les bonnes conditions. Ouais. Je pourrais vous parler du mode cinématographique qui permet d'ajouter en temps réel du bokeh à la vidéo, ce qui est quand même impressionnant pour un smartphone. On a un processeur qui fait bien tourner ça. Je pourrais vous parler de l'écran 120 Hz avec capacité de rafraîchissement de l'affichage adaptatif en fonction du contenu. Je pourrais vous expliquer tout ça. Le problème, c'est que si je le fais maintenant, plus personne n'ira voir ma prochaine vidéo et il faudra l'expliquer à mon sponsor.
Dommage.
Le sponsor, justement, c'est ce qui fait que moi, chaque année, je me rends à l'Apple Store à 10h du matin, day one, pour aller chercher mon iPhone comme un bon.
Ah, tu vas en physique ?
Ah ouais, moi j'y vais à 4h du matin.
À 4h du matin ?
Bah, je suis obligé parce qu'il n'y a là qu'à 10h du matin, vous ne levez pas de bonheur.
C'est vrai ? Il n'y a plus la queue maintenant. Maintenant, il n'y a plus la queue.
C'est le Covid.
J'ai la queue toujours.
Ah ouais, c'est vrai ?
Incroyable.
Ah, mais maintenant, en fait, on a des créneaux. Moi, j'ai 10h-10h15 à chaque fois. À l'Apple Store d'Opéra, je vais le chercher, il n'y a pas la queue.
Ils ont supprimé la queue.
Ils ont supprimé, ça faisait mauvaise pub.
C'est fort, Apple.
C'est incroyable.
Donc chaque année, j'y vais à 10h à l'Apple Store d'Opéra. Vous pourrez me voir l'année prochaine, certainement en septembre ou en octobre, comme un bon pigeon. Je vais chercher mon iPhone, un pigeon payé, hein, donc ça fait quand même toute la différence. Le problème quand on ne manque aucun iPhone, c'est qu'on finit par manquer de manque, justement. C'est-à-dire que acheter l'iPhone tous les ans, c'est adopter chaque nouveauté, une par une, et on va pas se mentir, en général, elles sont pas forcément révolutionnaires. Mais la question que je me suis posée, c'est révolutionnaire par rapport à quoi ? Dans mon cas, par rapport à l'iPhone précédent. Ok, je pouvais me douter qu'en un an, il n'y allait pas avoir un changement de direction. L'iPhone, cette fois, il a des roulettes. Voilà, je pouvais me douter qu'il n'y allait pas avoir une révolution.
À 1000 balles pièce.
La question, c'est combien d'entre vous changent de smartphone tous les ans ?
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pas moi.
Alors,
mais alors depuis peu.
Je sais ce que les gens vont dire. Parce que j'ai développé un algorithme conversationnel à partir de toutes les discussions que j'ai pu avoir sur Twitter, donc je sais toujours ce que vous allez dire. Vous allez me dire, s'ils ne veulent pas que je l'achète, pourquoi ils le sortent ? Et ben la réponse, elle est très simple, elle est partout autour de vous. Pourquoi les marques de voitures en sortent régulièrement, même sans révolution ? Pourquoi les marques de brosses à dents continuent d'en inventer ? Pourquoi on ne s'est pas tous mis d'accord sur un seul modèle de papier toilette ? Parce que pour innover, il faut innover souvent. C'est ainsi que fonctionne l'innovation. Si toi, Micode, tu me dis, tiens, j'ai envie de prendre des biceps. Ce qui est tout à ton honneur.
Ce qui serait peut-être nécessaire.
Je te le suggère, je me le suggère aussi. Un coach sportif va plutôt te recommander de faire 10 pompes tous les matins plutôt que de faire 100 pompes tous les trimestres. Tu connaîtras une évolution qui sera assez faible. C'est ainsi que fonctionne l'innovation. Pour innover, il faut innover souvent. Donc la raison pour laquelle Apple sort un iPhone tous les ans, c'est pour... Bon, il y en a plusieurs en réalité, je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a trois principales. La première, bah, c'est pour vous le vendre. Si toi, tu as envie de changer d'iPhone tous les ans, ils te remercieront, ils seront très contents. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a peut-être quelqu'un qui a acheté un iPhone il y a 4-5 ans, qui avait envie de changer en 2021 précisément, parce que son iPhone commence un peu à dater. Bah, il faut lui proposer une solution qui est meilleure que l'année dernière. Ce n'est pas parce que moi je l'ai acheté l'année dernière qu'elle ne mérite pas un rafraîchissement et d'avoir un iPhone meilleur que le mien. Donc il faut répondre à cette demande. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas se laisser dépasser par la concurrence, parce que Samsung, etc. vont continuer de lancer des smartphones. Alors, on ne leur reproche pas, je ne sais pas trop pourquoi. Apple n'est pas immunisé contre cette protection-là.
Ils sont en tête de pouf.
Voilà, mais c'est de bonne guerre. Donc voilà, il ne faut pas se faire rattraper par la concurrence. Et la troisième raison, c'est que c'est ainsi que fonctionne l'innovation. C'est la roadmap qu'ils ont définie dans leur stratégie pour qu'à long terme, ils innovent. Donc quand vous parlez d'innovation, alors on peut faire des vannes, hein, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, moi ça me fait marrer le truc du capteur, etc. On peut vanner. Je voulais simplement apporter cette précision-là. Quand vous parlez d'innovation, ne regardez pas forcément un iPhone ou un produit avec son précédent. Regardez sur 2, 3, 4, 5 ans, et là vous verrez qu'il y a une véritable évolution.
Et alors la question que moi du coup je te poserai, c'est est-ce que tu penses que peut-être ça va changer ces fréquences-là, puisque on a vu peut-être qu'au début d'une itération et d'autre, il y avait des gros changements. Aujourd'hui, on commence à arriver sur du détail, le détail, le détail qui va vraiment intéresser les super experts de la photo, ouais, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment où ça va changer, où à vie, ils vont faire un par an ?
Je ne crois pas et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Je pense que ce qu'il faut changer, c'est les habitudes de consommation des gens. Alors, je suis très mal placé pour en parler, mais bon, après, moi, c'est mon métier. C'est un peu...
C'est la triche.
Je suis auto-convaincu que contractuellement, j'étais obligé d'acheter le nouvel iPhone à chaque fois.
Très
donc,
pratique.
Moi, c'est mon métier. Mais je pense simplement qu'il faut que les gens arrêtent de considérer que parce qu'un iPhone sort, ils doivent l'acheter. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, moi, en général, quand on me demande, je recommande de tenir minimum 3 ans avec
J'allais
avec
te dire
iPhone.
Que je me suis fait violence. Mais alors, vraiment, c'est ouais, vraiment une parole de privilégié de dire ça. Mais avant, effectivement, j'essayais de prendre là, les derniers iPhones quand ils sortaient et tout. Et là, j'ai pas changé depuis 2 ans. Et je pense que je vais encore tenir là
c'est
3 ans.
Sincèrement, en dessous de 3 ans.
Franchement, c'est grave d'en arriver à cette
bon
discussion pour l'espèce humaine. Non, mais qu'on discute de ça, c'est quand même un problème. Mais quand même. Tu vois, je suis content. Et ça va très bien. Tu vois,
ouais,
y a le mois après la sortie où tout le monde est. Et là, avec son nouveau truc, etc., ouais, les nouvelles vies. Et en fait, après, tout le monde s'en fout.
Au final, tu t'y fais très vite. Hein.
Bah oui.
Moi, j'étais quasiment plus hypé quand j'avais trouvé une paire de chaussettes confortables que par le dernier iPhone. Non, je déconne, je suis quand même content parce qu'il y a de vraies nouveautés que moi j'adore. L'écran, par exemple, c'est incroyable.
Ouais.
Mais je recommande vraiment de garder son iPhone ou même n'importe quel smartphone 3 ans minimum. 4-5 ans, vous pouvez tenir aisément, vraiment changer d'iPhone tous les ans. Si ça vous fait kiffer, faites-le, il n'y a aucun problème. Je suis pas là pour dire aux gens, il faut absolument tenir ce calendrier. Faites ce que vous voulez, mais sincèrement, je vous le dis de la part de quelqu'un qui change tous les ans, ça sert à rien. Parce que vous verrez un gap technologique beaucoup plus important si vous attendez 3, 4, 5 ans.
C'est vrai que la mise à jour fait plus plaisir. Est-ce que tu es sur le dernier iPhone, Luc?
Oui.
Et oui. Voilà.
Mais j'ai une question pour toi. Alors,
ouais.
Explique-moi pourquoi on est iOS 15
ouais.
et iPhone 13.
C'est une bonne question.
Attends,
parce qu'on est passé de l'iPhone 8 au 10.
Et là, aujourd'hui,
ouais.
On est à iOS 15 parce qu'on a commencé en 2007. On est d'accord.
Oui.
Un par an.
Donc là,
les iPhones
ça, on est bien un iOS par an.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Donc c'est, la seule raison, c'est parce qu'on est passé de 8 à 10.
Ben non, il en manque là.
Bah après, tu as des iPhone 4, 4S, etc.
4 et 4S sont pas sortis la même année ?
Qui biaise
Non. D'accord. C'est un test de.
C'est pas mal.
Non,
c'est pas mal.
J'ai bien répondu.
T'as un coup de pression là. J'ai l'impression d'être en cours.
C'est ça.
Non, bonne réponse.
J'ai pas appris ma leçon.
C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, quelque part, si tu veux, pour les rois du marketing, ça aurait été bien d'appeler l'OS pareil que le phone, non ?
C'est vrai. Ça aurait pu.
J'avoue que je me suis jamais posé cette question.
Mais c'est pas vrai. Alors maintenant, je te pose la question sur iOS lui-même.
Ouais.
15 là.
Ouais.
Donc tu l'as, hein, là-dessus.
Ouais.
Ça se passe bien ?
Ouais, pas toi ?
Ah non.
C'est
non,
vrai
ça, ah non, ça se passe pas bien du tout.
Pourquoi ?
Ah, y a plein de bugs. C'est un truc plein de bugs. C'est absolument fantastique. Le truc qui me dit que mon storage est plein alors que...
Ah, j'ai vu ce bug-là.
Ouais,
je l'ai pas eu.
Ouais, oui, moi je l'ai.
Je pense qu'il cible des gens.
Bah, le dernier patch l'a modifié. Mais
c'est marrant parce que je l'ai depuis la première bêta. Et j'ai eu quelques bugs en bêta, mais vraiment très peu par rapport aux autres versions d'iOS.
Le 15.0 n'est pas terrible, le 15.1 est un petit peu mieux, évidemment, bon, c'est comme d'habitude. Ouais. Mais...
Ça, c'est un truc qui est quand même bien réussi, c'est le fait de faire des bêtas 6 mois avant. Je pense qu'on arrive à des niveaux de... Alors, je ne sais pas si c'est plus stable qu'avant.
C'est beaucoup plus stable qu'avant.
Tu crois ? Au moment de la release, c'est plus stable qu'avant ?
iOS 14, iOS 15, les bêtas sont beaucoup plus stables qu'avant.
Ouais. Alors moi, il y a une époque, je suivais vachement, honnêtement, les nouveautés. Pareil, bon, on parlait des nouveautés iPhone... Il y a des hype qui se fait, j'ai l'impression, si c'est français. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le même phénomène sur les nouvelles versions d'iOS. Où, ouais. Il y a une époque, je suivais tout, je regardais les vidéos avec toutes les nouvelles fonctionnalités, etc. Et puis, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un tel niveau de maturité sur ces trucs que je ne sais pas quoi, ça me fait...
En fait, il faut qu'on finisse par accepter qu'un smartphone et la technologie en général, ce n'est pas de la science-fiction. Donc quand on te présente un smartphone, on te présente un outil. Donc on peut avoir envie de fantasmer sur des fonctions comme Siri qui va révolutionner.
Mais il y a une époque où c'était peut-être une époque où les gaps étaient très 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 hauts, tu vois.
Je crois pas, je pense qu'on vendait des trucs qu'on considérait comme étant exceptionnels,
ouais.
Et qui finalement n'allaient pas forcément changer notre vie. Maintenant, ce sont des outils qui sont extrêmement matures et sincèrement quand je regarde le nouvel iPhone, je suis pas ultra hypé. Je me dis, putain, c'est un truc quand même...
C'est quand même
il n'est pas pliable.
Il n'est pas pliable. Mais alors justement, tu fais bien de parler de ça, parce qu'il y a des marques qui viennent avec de vraies innovations de rupture et qui ne sont quand même pas adulées par le public. C'est-à-dire que tu regardes le Z Flip, le Z Fold, surtout dans leur dernière version, c'est quand même des super outils.
C'est vrai que ça a l'air pas mal. Hein.
Et de voir un smartphone pliable, moi, au début, j'étais fou, quoi. Et en fait, les gens, quand tu les sors de leur zone de confort, ils disent, ah ouais, mais c'est trop loin de ce qu'on connaît. Mais d'accord, on va faire un effort. À un moment donné, il faut que tu sois content.
Mais quand Apple le fera, si jamais ils le font un jour... Là, c'est vrai.
parce que quand Apple le fera, ils font du soft aussi.
Oui, ok. Est-ce que toi, tu as toujours été dans la team iPhone depuis le début ?
Depuis 2007, oui. J'ai que des iPhones. Mais évidemment, quand je travaillais chez Apple, j'avais un Samsung. Et quand je travaillais chez Samsung, j'avais un Apple.
Juste pour créer des conversations, j'imagine ?
Ouais, mais pour innover.
Mais c'est pas, honnêtement, c'est une bonne politique. Ils n'ont pas de politique qui t'interdise de toute façon.
Justement, s'ils l'avaient, il faut la changer.
Oui.
Donc c'est exactement le genre de truc qui fait qu'on est là pour disrupter. Et on disrupte aussi par son comportement, pas seulement par les innovations.
Il y a un truc.
Tu m'as appris qu'on pouvait entrer chez Apple sans signer de NDA. Ça, pour moi, c'est un mystère.
Ah ouais,
ouais. Bah, je suis peut-être le seul qui l'a fait, mais.
Ouais. Comment parquer le mystère? C'était dans tes conditions.
Si donc.
Ils lui ont donné le NDA. Il a dit non.
Nope.
Voilà,
c'est pas pour moi. Mystère. Et alors, est-ce que tu as eu ta période aussi fan, un peu comme nous, où tu suivais exactement toutes les évolutions depuis que tu as quitté la boîte? Ou alors, est-ce que tu as un désenchantement aussi qui s'est fait
Oh ben, moi, je sais que depuis 2011, il ne se passe plus rien. Hein, donc, je le sais. Bon, c'est tout. C'est comme ça.
L'iPhone 10, c'était bien quand même.
Oui, non, c'est bien, je les ai, hein, mais bon, il se passe rien d'intéressant,
d'excitant.
Et pourquoi tu changes tous les ans, du coup ?
Parce que
par plaisir.
Je peux.
Ouais, c'est bien. C'est comme l'avion pour le saucisson. C'est, voilà. J'aime bien cette philosophie.
C'est une très bonne philosophie. merci beaucoup, Léo. On pourra retrouver, bien entendu, donc, ta vidéo qui entrera dans plus de détails bientôt sur ta chaîne.
Complètement spoilé, mais effectivement, il y aura beaucoup plus de détails. Venez la voir, s'il vous plaît.
On trouvera ça sur ta chaîne YouTube. Pour finir cette émission, on va passer sur un petit vrai ou faux, ce qui est tout à fait un prétexte à discussion et débat. C'est parti, jingle. Ok, donc vous allez voir des affirmations passer sur cet écran, parfois qui seront plus adressées à toi Luc, parfois qui seront plus pour Léo. Le jeu, c'est de déterminer si c'est plutôt vrai ou plutôt faux. C'est dans le titre, vraiment j'explique des trucs hyper évidents.
C'est un concept.
Ouais, c'est
révolutionnaire. Et on va commencer maintenant avec la première affirmation. Est-ce que Luc, tu considères que les Américains sont de mauvais développeurs en intelligence artificielle? Vrai ou faux?
Bah, ça dépend lesquels.
Tu vas te faire des ennemis.
Ça dépend lesquels. Il y en a des bons, il y en a des moins bons.
Statistiquement,
plutôt moins bons. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les meilleurs du monde, c'était les Français.
Mais c'est vrai qu'on a cette impression que dans ces secteurs-là, particulièrement aux États-Unis, il y a beaucoup d'étrangers. Quoi.
Ouais.
Oui, il y a beaucoup d'étrangers. On voit dans la Silicon Valley, il y a quand même beaucoup d'étrangers. Dans mon groupe de Samsung, une centaine de personnes, il y avait deux Américains.
Ah oui. Oui, donc oui, c'est pas...
L'étranger.
Donc, t'as été sympa. tu les as aménagés.
Ouais, c'est ça.
Il y en a deux, juste deux.
Mais Adam Chayer, par exemple, qui est mon pote, avec qui j'ai travaillé donc, depuis les années 90, c'est un excellent développeur d'intelligence artificielle.
Tout n'est pas acheté, heureusement. Léo Duff, est-ce que tu considères que toi-même, donc Léo Duff, ne peut pas sortir sans ses AirPods, sinon il se désintègre? Tu les as.
La preuve, j'ai mes AirPods, évidemment. Soit les AirPods Max, mais oui, en effet. En fait, ça fait partie des technologies qui sont exceptionnelles parce que tu prends n'importe qui ayant des AirPods, tu lui retires un mois. Mois après, il ne va pas en racheter en Apple
c'est
Store.
Vrai.
C'est impossible.
Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils l'ont prévu de base puisqu'ils ont une batterie de 6 mois.
Mais tout est parfait dans ces AirPods. Il y a qui sont nouveaux. T'en as, Luc?
Bien sûr.
On peut pas s'en passer. L'humanité ne peut plus se passer d'AirPods. Il faut en prendre conscience. Hein.
Il faut lui l'assumer définitivement. Il faut éviter que ça tombe dans les grilles, évidemment.
Oui,
mais
on n'est pas obligé de parler de tout non plus.
Tous les problèmes.
Les choses qui font mal. Oula, ces images font mal aussi. Ah oui, d'accord.
Ça date.
T'as commencé à 10 ans en fait.
Presque. J'ai commencé à 13 ans. Mais
c'est vrai.
Je réponds premier degré à ta vanne.
13 ans. Vraiment?
Ouais.
Je savais pas, putain.
Pas dans la tech, mais la création de contenu à 13 ans.
Ok. Dans la poésie peut-être.
Dans le jeu vidéo.
Le jeu vidéo. Ouais. Parce que tu as une petite étape poésie, mais je vais pas insister dessus forcément.
Mais pour répondre à ta vanne, tu as commencé. Moi, j'étais pas né encore, donc.
une pour Luc, vrai ou faux? On peut être ingénieur, gagner 200 000 euros dollars par an et être SDF à San Francisco. Vrai ou faux?
C'est vrai.
Ah ouais.
Ouais,
ça,
c'est vrai.
C'est quand même hallucinant.
Un SDF, faut pas exagérer. On pourra toujours trouver un petit truc en colocation. Mais c'est absolument incroyable. C'est un des problèmes de la Silicon Valley. Bah, tu parlais tout à l'heure des problèmes, tu me posais une question. C'est vrai que si on réfléchit bien, ça, c'est quand même un problème qui assure pas la mixité sociale, on va dire. Parce que, bon, tout le monde est millionnaire, hein, donc du coup, à Palo Alto.
Du coup, personne n'est millionnaire.
Si, enfin, tout le monde est
millionnaire.
Oui, mais
le coût de la vie fait que.
À Palo Alto, le coût de la vie est incroyable. La moindre petite baraque de merde, c'est 3 millions de dollars. Donc c'est compliqué pour acquérir quelque chose. Donc, effectivement, si tu ne fais pas partie de la tech et si tu travailles au McDo de Palo Alto, tu n'habites pas à Palo Alto.
Bon, ben, ça relativise un petit peu. Bon, du coup, j'imagine que les salaires, etc., s'adaptent. Mais effectivement, moi, j'avais un cousin qui était à San Francisco, il me parlait de ses salaires. Faut pas transposer parce qu'en fait, c'est incomparable.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les 200K, déjà, ça n'existe pas. Tu n'as pas de développeurs qui gagnent 200K. Les gens qui sortent de l'école, je les embauchais à 250. Donc, 200, ça n'existe pas.
Tout junior, ouais. Et j'imagine qu'après, ça monte.
Ouais.
Très haut. Et pour Léo, vrai ou faux, les services, alors beaucoup plus sérieux, t'inquiète pas, les services de livraison de courses en 10 minutes répondent à un vrai besoin?
C'est bien, c'est dans mon actualité, ça répond à un tweet que j'ai fait où je disais que je trouvais qu'on manquait à Paris de services de livraison en 10 minutes parce que là j'en découvre un par jour en ce moment. tu vas dans le métro, Flink, ouais. Gorillaz, machin, il y en a, ouais. y en a 10 000.
Aussi, chaque fois que je reviens ici, il y en a des nouveaux.
C'est incroyable.
C'est extraordinaire.
Dernièrement, donc voilà, je faisais juste une vanne par rapport à ça. Est-ce qu'ils répondent à un besoin ? Oui, je crois, ouais. Moi, ça m'arrive quand j'ai vraiment besoin d'un truc express,
ouais.
Que je suis en soirée, j'avoue, que je vais aller faire les courses et tout, ça m'arrive.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est quand même très très précis. Il faut un alignement de planète pour que ce soit utile. Parce que ouais. moi, le Franprix à 2 minutes, enfin.
Ouais, moi je trouve que c'est bien long, de marcher un peu de temps en temps, parce ouais. qu'on va tous se retrouver obèses et ouais. faire des trucs.
Moi, c'est la seule pause de ma journée d'aller marcher, faire 300 mètres et revenir.
Moi, j'adore faire mes courses depuis que j'ai un bon supermarché, tu vois.
Ouais, c'est ça, les supermarchés. Ouais, c'est vrai, les supermarchés à Paris, si t'es dans le centre, c'est un peu compliqué des fois. Mais tu vois, j'entendais sur France Info un jour, parce que je n'écoute que France Info, j'entendais donc une réaction au fait qu'il y en avait effectivement beaucoup et de plus en plus. Et j'entendais un gars qui disait. Oh, mais tu te rends pas compte, j'avais une omelette à faire et il manquait,
et là, en
le
10
poivre,
minutes.
Il manquait le poivre. Et le mec, il m'a amené le poivre en 10 minutes.
Bon, bah, toc toc le voisin, est-ce que tu as du
oui,
poivre?
Oui, c'est vrai, Je me souviens, j'allais chercher les œufs chez les voisins.
Sur les réseaux sociaux virtuels maintenant, donc on n'est pas sur le social. Donc on va pas voir le voisin, on ne connaît pas. On connaît le voisin sur Internet, on ne connaît pas le voisin.
C'est vrai.
Oui, mais alors justement, tu en discuteras avec Yardis, parce que lui, justement, il était plutôt dans la. Dans le constat que à quoi ça peut bien servir. Mais effectivement, le cas en soirée.
Bah, en fait, moi, c'est à ce moment-là que je l'ai utilisé, c'est quand j'étais en soirée et qu'effectivement, on manquait peut-être un peu d'alcool.
ah, il faut l'alcool
moment, ouais.
J'aurais dit que, intuitivement, j'aurais dit que c'était interdit, mais.
Si, t'en as.
La livraison d'alcool en 10 minutes.
Donc, ouais, il y a des cas très précis dans lesquels c'est utile, mais vraiment, à la base, je faisais une vanne que les gens n'ont pas compris parce que tout le monde ne vit pas à Paris et il y a des gens qui pensaient que c'était impossible et qui m'ont dit pourquoi pas 5 minutes.
Ah oui.
Donc, c'était marrant, c'était une sorte de filtre automatique à provinciaux. Donc,
pour Luc, vrai ou faux, la Silicon Valley est une bulle dans le présent?
Je pense que c'est la Silicon Valley qui soit une bulle, mais les choses qu'on fait dans la Silicon Valley, de temps en temps, sont une bulle. Il y a un réajustement qui se fait tous les 6, 7, 8 ans, ça dépend. Les choses qu'on y fait sont des fois des bulles.
Et là, tu dirais qu'actuellement, maintenant, tout de suite.
Là, on est dans une belle petite bulle qui va péter très bientôt, une bulle spéculative sur les valorisations des startups. Donc effectivement, là, on n'est pas loin de ce qui se passait dans les années 99-2000. Quand ça a bien pété.
Super, que du kiff.
Attention,
ah, ouais, non, ça va faire du bien.
Toi, t'as pas des parts chez Tesla, Apple?
Je suis pas là-dedans. Moi,
intuitivement.
J'avais acheté des micro-parts Apple parce que ça me fait marrer d'acheter un truc Apple dès qu'il y
en a. Pour le principe de pouvoir le dire.
Ouais, c'est ça.
Léo, vrai ou faux, il y a encore actuellement des acheteurs d'iPod Touch en 2020.
J'imagine que oui, s'ils sont encore sur le store.
Ça, je ne comprends pas.
J'avoue que je ne les ai pas rencontrés. Je ne sais pas.
Où sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ?
Je ne sais pas. Peut-être que quand tu as un enfant, par exemple, tu n'as pas forcément envie de lui acheter un iPhone.
Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Parce que vraiment, la fonctionnalité de l'iPhone, c'est juste le téléphone que tu as sur FaceTime et sur.
C'est une sorte d'iPod. Tu ne peux pas acheter d'autres iPods, en fait. Donc, franchement, j'en sais rien.
Moi non plus. Mais c'est pour ça que je me dis peut-être que tu avais une information secrète.
C'est d'ailleurs la question de savoir s'ils vont en refaire. Et moi, j'y crois un peu.
Ouais.
Mais sans être capable de te dire la cible, mais j'y crois un peu, ouais.
Mais je sais pas, toi, si t'as déjà eu un iPod. Bah non,
ah bah moi, oui, j'en ai plein d'iPod et je les utilise tous les jours.
Mais est-ce que c'est les derniers iPod Touch qui ressemblent à des iPhones?
Ouais, c'est les derniers qui sont sortis. Mais j'utilise comme télécommande de mes objets connectés. Okay. Donc il y en a partout dans la maison parce que c'est des télécommandes.
Oui, ça peut.
C'est un excellent browser, hein. C'est browser, app, machin, et commande des trucs.
Pour un truc statique qui reste dans la maison.
Bah, je pense que Apple sera très content de la publicité. Oui. c'est une télécommande domestique.
Bah oui.
C'est exactement vrai. Dans le branding.
Et je l'utilise avec une seule app, oui. C'est trop que. C'est une mono app.
Tu
sais, j'ai certaines de mes télécommandes dans la maison qui sont aussi des Nokia 3620.
Donc, je suis pas sûr d'avoir été né à ce moment-là.
Tu ne sais pas, non. Ouais.
Je ne pense pas.
Ouais. Alors, comment tu décris?
J'utilise un tout petit écran, c'est un bouton, quoi. J'utilise comme bouton, mais je peux voir sur quoi j'appuie, c'est rigolo.
Et ça déclenche quoi après?
Bah, des trucs, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a 219 objets connectés dans la maison.
T'es très domotique.
Waouh! 219! Mais attends, alors, parce que j'imagine que tu as dû te faire ton système toi-même, parce que. Ça envoie un SMS.
Il y en a qui font ça, ouais.
Qui déclenche des choses?
Ouais, bah, j'ai des SMS qui me sont envoyés quand la porte du garage reste ouverte trop longtemps, par exemple. ça arrive souvent. Les systèmes sont un peu compliqués, hein, parce qu'il y a tous les systèmes qu'on puisse imaginer, tous les systèmes de connectivité, depuis X10, qui est un vieux système, jusqu'au tout dernier, les derniers Bluetooth et autres.
Alors, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, parce qu'on a eu des tentatives ici d'essayer de connecter les trucs pour gagner du temps avant les émissions, etc. Ouais,
ça marche très bien.
Justement, tu vas pouvoir m'expliquer ce que nous on a raté, peut-être. Ouais. Parce que j'ai eu l'impression, en me lançant là-dedans dans la domotique, etc., de me prendre un mur d'incompatibilité entre les objets, de trucs qui ne sont pas à jour.
C'est exact, c'est absolument insupportable. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait mon propre système, hein, parce qu'il n'y a rien qui soit connecté. Alors on parle d'un truc qui s'appelle Matter, qui va peut-être arriver un jour, mais on en parle depuis 25 ans. Hein. Et Matter, c'est le nouveau machin où Google et Apple se sont mis d'accord pour voir ça, et même Amazon. Bon, alors on verra si Matter va sortir ou pas. Mais en tout cas, le problème, c'est effectivement l'incompatibilité entre tous ces systèmes en général. Et bon, le fait que tes Philips Hue ne parle pas à tes Leafex, Lamps, bon, je ne sais pas quoi. Donc, ça c'est un problème. Bon, maintenant si tu sais tripoter un peu les machins et que tu peux flasher les trucs en mettant ton propre firmware et tout ça,
là, tu peux d'énergie.
Que d'énergie, oui, mais à la fin, quand tu as tes 219 objets connectés qui s'amusent et qui font ce que tu as envie qu'ils fassent et que tu n'as pas à fermer tes volets toi-même, ça vaut le coup.
T'es fier.
Par contre, c'est très embêtant si tu as des enfants, parce que tes enfants, ils vivent dans Disneyland, hein, globalement, et quand ils vont chez les autres gens et que quand ils rentrent dans les toilettes, les lumières ne s'allument pas toutes seules,
ils comprennent pas ce qui se passe.
Donc, ça c'est un problème.
Pour t'expliquer jusqu'où j'ai essayé d'aller, on a des lampes qui sont connectées, qui sont faites par une boîte qui s'appelle Elgato, que tu connais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de module pour se connecter à notre système de gestion qui s'appelle Node-RED. Je ne sais pas si tu connais. Et du coup, je me suis retrouvé à être obligé de créer un module pour ce truc, pour connecter. Et en fait, au final, ça ne marche même pas parce que.
Je te conseille Home Assistant, qui a le Node-RED intégré, évidemment, et qui marche avec Elgato Lamps. Donc, il y a JDOM en France qui est assez réputé, mais en fait, je conseille plutôt Home Assistant, parce que c'est un peu plus libre et facile à adapter, et surtout, tu peux faire tout en local, ce qui t'as pas de cloud. Enfin, tu peux avoir le cloud si tu veux, mais
c'est pas obligatoire. Toi, t'es domotique, pas trop ?
Non, j'allais poser une question. Tu peux pas juste la mettre sur une prise connectée ?
Oui, c'est possible, mais en fait, tu perds un niveau de change. Enfin, c'est-à-dire que là, je pourrais faire des profils avec différents niveaux d'intensité.
Tu peux pas juste l'allumer et l'éteindre.
On est d'accord que ça peut marcher aussi, la prise connectée.
Moi, je suis un peu domotique, mais ouais, j'avoue que c'est pas encore ça. Mais... j'ai que des lumières connectées, en fait.
Mais c'est bien parce que ça te pousse, du coup, à aller fouiller, à être.
Je déteste ça. C'est pour ça que j'adore Apple. Hein. Voilà. Je déteste fouiller. C'est
HomeKit.
Oui, HomeKit qui marche plutôt bien, mais c'est quand même bien préconfiguré, quoi. Il y a assez peu de customisation. Non, moi j'ai juste des lumières connectées qui s'allument en bleu quand il pleut dehors, parce que je ne sais pas regarder par la fenêtre avant de sortir de chez moi, donc voilà.
C'est bon, écoute, ça, pour moi c'est une automatisation, et venant de toi ça me fait très plaisir.
Elle est utile, elle est pratique.
Oui, j'aime. Pour toi Luc, est-ce que c'est vrai que c'est dur pour un Français de trouver un job dans la Silicon Valley ? Ou pas.
C'est complètement faux. Surtout si c'est un Français qui a fait des maths.
On retombe sur les maths. C'est quoi les jobs qui recrutent peut-être le plus en ce moment ?
Bon, attends, on va parler hors pandémie, ok, et hors Trump. Donc, sous Trump, c'était compliqué d'avoir des visas. Et puis après, avec la pandémie, c'est compliqué d'aller aujourd'hui jusqu'au 1er novembre. Vous n'avez pas le droit, les Français n'ont pas le droit d'aller aux États-Unis. C'est comme ça. Mais sinon, en général, les profils, c'est n'importe quel programmeur, du web designer au gars qui va faire de l'IA avancé, au mec qui va faire des chip design. Enfin, il y a du boulot. Je pense qu'on est. D'une manière récurrente, dans les 20 et quelques dernières années, on est. Plein d'emploi. Donc, on manque des développeurs.
Vous avez entendu. C'est un message pour vous si vous voulez aller postuler.
Elle n'est pas chez Amazon, mais tout le reste.
C'est ça.
Vous pouvez aller chez Amazon, mais vous allez vous faire arnaquer.
Mais il faut acheter une machine à laver, quoi.
Voilà, exactement. Ça vient avec le pack. Léo, est-ce que c'est vrai ou faux que, pour toi, tu penses que le téléphone pliant a de l'avenir ? On en a parlé tout à l'heure.
C'est l'avenir.
Tu penses que c'est l'avenir ?
Ouais.
T'as testé le Z Flip ? Moi, c'est le seul ceux comme ça, là, je trouve ça infâme, mais le clac, ça donne des souvenirs de l'époque.
J'ai testé le Fold et le Z Flip. T'as beaucoup de souvenirs de cette époque-là ?
Pas du tout. C'était un effet de style.
J'ai testé les deux et toutes les versions. Et bon, effectivement, pour l'instant, c'est pas. c'est très bien fini. C'est vraiment, ça peut être votre smartphone de tous les jours. Moi, il a quand même un gros défaut, c'est qu'il est sur Android, donc ce qui le rend inutilisable par définition. Mais sinon, non, je suis convaincu que ça doit être développé encore quelques années. Ça fait que 3-4 ans qu'on a ce genre de produit, donc c'est bébé pour de la technologie. Et ça apporte plein d'usages. Mais ne serait-ce que le fait d'avoir un smartphone avec un grand écran, mais qui représente ça dans ta poche, c'est déjà une qualité exceptionnelle. Donc moi, je suis absolument convaincu que ça a de l'avenir, et j'en parlerai autant qu'il
bien
faut
sur ma chaîne
pour que les gens soient aussi convaincus que moi.
Abonnez-vous, c'est gratuit. Luc, est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux ? Est-ce que tu es, on va dire, d'accord avec certains milliardaires comme Elon Musk ? Un jour, on sera dépassé par l'intelligence artificielle ?
Jamais.
Est-ce que... Alors, mais j'ai une deuxième question, parce que ta réponse est claire et sans et équivoque, univoque. Pourquoi, comment c'est possible que des personnes qui sont aussi haut, on va dire, qui ont énormément de conseils, comment ils peuvent avoir une position aussi latéralement opposée à la tienne ?
Elon Musk n'a jamais fait d'intelligence artificielle de sa vie. C'est un excellent marketeur, c'est un excellent tout ce que vous voulez. Il est un visionnaire, point de vue purement produit. Donc il est extraordinaire pour plein de choses. Il a monté des boîtes magnifiques, il fait faire des trucs magnifiques par plein de gens. Mais lui, il n'a jamais fait d'IA, donc il ne sait pas ce que c'est, l'IA. Donc il peut dire ce qu'il veut. Puis on voit très bien, de toute façon, que c'est un grand Pinocchio, quand même. Hein. Ce qui s'est passé avec le Tesla, je veux dire, il est en procès aujourd'hui, pour avoir raconté n'importe quoi. Et le fait que, ça y est, l'autopilote arrive, ça fait 6 ans qu'il dit que l'autopilote arrive. L'autopilote n'est pas là, hein. on est très 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 loin d'avoir des voitures qui conduisent toutes seules. Donc voilà, il ne sait pas de quoi il parle. Et il fait un peu exprès, parce qu'à la fin, il parle essentiellement de lui.
C'est ça. Et ça fait vendre.
Et puis je pense qu'il lui faut un propos. En fait, il développe des technologies transhumanistes. Je pense qu'il se positionne en défenseur de, pour pas qu'on soit rattrapé, il faut qu'on mette une puce dans le cerveau pour rester à niveau.
Ça va dans le storytelling.
C'est aussi un propos marketing.
Ça va dans le storytelling.
Oui, mais c'est juste. Enfin, encore une fois, c'est surtout pour faire parler de lui et de ses compagnies. Donc effectivement, dans celle-ci, qui est assez rigolote, parce que quand vous avez vu les deux petits cochons sur scène qui sont venus avec leur puce implantée, et qu'il y avait un cochon qui avait la puce depuis longtemps et l'autre qui ne l'avait pas, et que le cochon qui avait la puce faisait des trucs extraordinaires, comme groin-groin, c'est quand même fantastique.
C'est impressionnant. Moi, j'ai quand même vu la vidéo du petit singe qui joue à Pong.
Ouais.
C'était pas mal quand même.
Ouais. Non, attends. Je veux dire, quand tu regardes les gens qui travaillent sur le cerveau depuis une trentaine d'années, je veux dire, la démo qu'il a fait avec le singe, je veux dire, eux, ils les font avec des souris depuis 1820, quoi. Je veux dire, donc il faut arrêter les conneries.
Le fait est que ça fonctionne, parce que moi, effectivement, de l'extérieur, comme ça, juste en recevant les vidéos du web.
C'est un excellent marketeur. On ne peut pas dire le contraire. Il sait très bien se marketer lui-même.
Mais c'est génial, comme ça on a justement votre vision des choses. Tiens, je vais rajouter une question. Parmi du coup les personnes comme ça très, très médiatisées, les grands noms de la Silicon Valley, des GAFA, etc. C'est qui, donc on a parlé d'Elon Musk, qui par certains aspects, vous admirez, mais aussi qui a visiblement pas mal de défauts. C'est qui, selon vous, qui serait le plus emblématique, vivant ou décédé d'ailleurs, ou qui vous inspirait vous le plus?
Vivant, je sais pas, mort, j'en ai un, c'est Doug Engelbart, c'était le gars qui a inventé la souris, hein, donc ça date de 1968, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'était le gars qui, je pense, il se trouve que c'était mon voisin de bureau à SRI, à Stanford Research, c'était un gars absolument extraordinaire. Il faut regarder, aller sur internet et chercher une vidéo qui s'appelle The Mother of All Demos, la mère de toutes les démos. Et ça date de 68. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors, la qualité de la vidéo est dégueulasse. Hein. C'est en noir et blanc, machin, tout ça. Le son est pourri.
Mais on peut essayer de la retrouver en même temps.
Mais elle est extraordinaire, cette vidéo, parce qu'elle montre donc Doug qui est dans une petite fenêtre, hein, sur l'écran. Alors, déjà, un écran avec une petite fenêtre dedans, où lui, il est en vidéoconférence avec un mec à Los Angeles. Il est à Stanford. Donc, en conférence avec un mec à Los Angeles. Et puis il bouge une souris avec un curseur sur l'écran. Il y a des links qu'on peut appuyer, qui sont des hyperlinks, et des hyperlinks qui vont sur Internet. En 68, c'était Internet, c'était la
révolutionnaire.
Voilà la démo. C'est Doug Engelbart. Et donc c'est lui, et son clavier, son petit clavier, tu vois, à gauche, là, il a un machin avec cinq petits machins. Alors ça n'existe plus, non ? La souris à droite.
Il y a un piano.
D'accord ? Donc c'est une sorte de petit piano, effectivement. Bon, le clavier, et puis tu vois la souris qui se trimballe, là, machin, le clavier. Et donc, je pense que sous l'image qu'on a là, il y a son image à lui. Enfin bon, il faut regarder, ça dure une heure à peu près. C'est toute l'informatique moderne qui est apparue en 68, qui est apparue dans son cerveau, et il l'a fait. Parce que c'était des vrais systèmes. Donc il y avait un camion relais en haut des montagnes au-dessus de Stanford qui envoyait des trucs jusqu'à Los Angeles à 700 km. Ouais. À 700 km, oui. Donc enfin, c'était assez fabuleux. Donc Doug Lombard, c'était le visionnaire. Il est mort il y a 4-5 ans, hein, peut-être un peu plus maintenant. Et c'était un gars extraordinaire.
Et ben génial, modeste. Ça nous fait une bonne ressource en plus à aller voir après l'émission. Je vais à vous en faire une dernière. Tu n'as pas le droit de répondre, c'est très important.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Léo, selon toi, vrai ou faux, Luc Julia est chevalier de la Légion d'honneur ?
Je pense que c'est faux.
Et c'est raté.
Je pense que c'est vrai. J'ai fait du montage en régie, c'est vrai.
T'inquiète.
Je pense, le seul chevalier de la Légion d'honneur qui a reçu sa Légion d'honneur sur une chemise hawaïenne.
C'est incroyable. Ce niveau de flex.
Flexing. Et une dernière pour toi, Luc. Est-ce que c'est vrai ou faux que tu as le contact de Yann Lequin et que tu vas nous le filer ?
C'est vrai que j'ai son contact et je ne vais pas vous le filer.
Bon, plus sérieusement, est-ce que c'est un, vous vous côtoyez entre chercheurs de l'IA ?
Il y a une... Bien sûr. Bah, lui, en l'occurrence, bon, il travaille au mauvais endroit, mais à part ça...
Oui, je n'ai pas précisé, mais donc il est directeur IA chez Facebook.
Chez Facebook, oui. Il est incroyable. Hein, c'est lui qui a relancé vraiment l'IA moderne, on va dire, celle qui est statistique. Hein, c'est un excellent chercheur. Il a eu un prix récemment, d'ailleurs, tout à fait prestigieux, hein, le prix Turing. Donc, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les informaticiens. Donc, c'est un garçon extraordinaire. Il est génial. On est pas mal aligné sur le fait que l'intelligence artificielle n'existe pas, celle de Hollywood. Hein, donc, je pense que lui, il pense qu'il y a des choses qu'on peut... ça va se rapprocher un peu plus du cerveau que moi, que ce que je pense moi. Mais en gros, on est quand même pas mal aligné par rapport à ce que dit Elon Musk, etc. Et c'est ce que je pense que tous les gens qui font de l'IA pensent.
Les professionnels du secteur.
Les professionnels du secteur, ils pensent à peu près la même chose. Mais Yann Lequin est vraiment, je pense, le meilleur spécialiste de l'IA du monde aujourd'hui.
Eh bien, nous, on est triste, mais on va se débrouiller. On aura quand même son contact, on va le recevoir un jour. On se l'est promis. Ce ne sera pas grâce à toi. Voilà.
Il s'appelle Yann, si tu veux. Alors, rien à voir.
Rien à voir.
Lui, il est chef kebabiste, mais.
on peut éventuellement faire une nouvelle section à la place de Mal Perdu, vu que ça bug, visiblement. quelle soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Carrément, moi, ça faisait un moment que je voulais faire ça avec vous. C'est très, très cool. C'est toujours cool de voir des médias comme ça se lancer dans la tech, qui n'est pas un secteur dont on parle tant que ça, je trouve, en France. On commence à avoir pas mal de chaînes YouTube, quelques médias qui se détachent, etc. Mais ça n'a pas encore le succès que ça devrait avoir.
Et je te remercie. Là. Bah non, mais on voulait t'avoir depuis longtemps. On s'est dit, aujourd'hui, c'était parfait. Merci à toi, évidemment, Luc, d'être venu chez nous.
Avec plaisir.
C'est un grand honneur pour nous de t'avoir reçu. Merci à vous, viewers, de nous avoir regardés. Merci beaucoup à tous les subs. Alors là, j'en ai vu passer, j'ai pas pu réagir, mais il y a OSX984 qui a offert plus de 140 subs, ce qui est juste monumental.
On va finir par déménager à San Francisco. Hein.
Voilà, un petit déménagement qui est prévu. On va vivre dans une roulotte. Merci énormément à toi, ça fait trop plaisir. Et à vous tous. Les rediffusions de Twitch sont bien entendu disponibles en extrait sur YouTube et en podcast. Donc vous pourrez aller voir ça dans les jours à venir. On tire Hugo. et mercredi prochain, on se retrouve pour l'émission Underscore à 20h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On te suit sur ta chaîne YouTube et sur Twitch.
Ouais, sur YouTube principalement.
Sur YouTube.
Venez sur YouTube.
J'étais en train de te mettre un coup de pression sur Twitch.
Après, si tu dis ça, il va falloir que je fasse des lives. C'est donc, venez sur, sur YouTube. On va parler de l'iPhone 13 prochainement. On va parler des MacBooks qui vont arriver.
Parfait.
On va parler des AirPods qui vont arriver, je l'espère.
Et Luc, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Nulle part, partout.
Sur mon YouTube également. Venez sur ma chaîne YouTube pour suivre l'actualité de Luc Julia.
Un seul endroit, non, mais tu fais énormément de passages en plateau aussi. On n'a pas pu, bien entendu, parler de tous les sujets, mais on peut aller revoir ton passage chez Combini et partout. Quelle star française qu'on a eu l'honneur de recevoir. À très bientôt, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
La bise.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.